On est aujourd'hui le dimanche 30 Maheshvan, on est le 3 novembre. On va commencer notre cours en vous disant à tous bonjour. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'a pas eu l'occasion de se réunir avec le maître du monde dans cette pièce. Et donc on va reprendre notre cycle d'études pour un petit moment. Et cette semaine, les cours vont être un petit peu différents de ce qu'ils sont d'habitude selon le rythme qu'on s'est fixé. Premier jour, Gilgulim, etc. Je vais essayer de faire un ensemble, c'est-à-dire de réunir plusieurs catégories, plusieurs aspects ensemble tout au long de la semaine. Et je ne sais pas trop ce qui va se passer, comment les cours vont se construire les uns après les autres. Mais on se lance à l'aventure. Bien évidemment, j'ai une idée derrière la tête, sinon je ne me lancerai pas comme ça sans filet. J'ai une idée derrière la tête, mais je ne sais pas trop comment elle va se réaliser, se concrétiser. Cette idée, comme j'espère, nous le verrons tout au long de la semaine, est influencée effectivement par ce que je viens de vivre dans mon très court séjour en France et particulièrement à Paris. C'est vrai que on a l'habitude, les gens se sont habitués à mon style depuis maintenant des années, et je pense que personne ne m'en veut, bien qu'il y a toujours beaucoup de sincérité dans mes attaques. Mais je disais que les gens se sont habitués à mon style, j'ai toujours l'habitude comme ça de critiquer un petit peu ceux qui ne sont pas encore avec nous ici en Israël. Et je ne reviens en rien sur mes critiques, simplement que il faut nuancer un petit peu la manière dont je le fais, parce que ça fait partie de mon style, et je pense que tous les gens honnêtes l'ont compris. Il n'y a aucune méchanceté, aucune critique sérieuse derrière mes propos, c'est plutôt des cris d'amour qui font appel à tous ceux qui comprennent véritablement ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour ça que je leur demande de plus vite de nous rejoindre. Mais malgré tout, pourquoi je dis que ce que je vais faire cette semaine est inspiré par ce que j'ai vécu à Paris, parce que c'est effectivement absolument incroyable de voir, d'une certaine manière, la puissance quantitative et qualitative des communautés juives en France, surtout je parle à Paris, de voir ce réveil, cet amour pour la Torah, cette sensibilité pour tout ce qui est juif et judaïsme. C'est quelque chose de très 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 impressionnant, et je pense pas, pourtant je voyage relativement pas mal un peu partout, je ne pense pas qu'on trouve facilement l'équivalent. La communauté juive française a quelque chose d'absolument incroyable, quelque chose de particulier. Le judaïsme français, je pense qu'il est unique au monde. J'ai pas dit il est meilleur, j'ai pas dit il est... mais il a quelque chose de particulier. Et puis bon... Ce séjour en France m'a remis à l'esprit cet enseignement fort du Rabbi qui déjà il y a des décennies, c'est plus des décennies, enfin oui c'est en 92, il y a des décennies, donc il y a plus de 20 ans, parlait de l'importance du judaïsme français, de l'importance du judaïsme français pour la délivrance finale. Ce sont des commentaires dont on a souvent parlé, j'avais, bon, comme chaque chose, après ça passe dans le subconscient, on l'a pas toujours en mémoire, et puis tout d'un coup des expériences remettent en évidence des enseignements très très forts. Et donc c'est un petit peu cette notion que l'on va essayer de, peut-être, de traiter cette semaine. Quand je parle de l'importance du judaïsme français, et selon les chidouchim, les dévoilements absolument incroyables que le Rabbi a fait en 92 et que je vais sans doute cette semaine ramener devant vous, il est bien clair, je le dis d'avance et je le redirai encore, qu'il ne s'agit pas de louer ici le judaïsme français pour ce qu'il est à Paris et qu'il y reste, Khalila Vechas. Il ne s'agit pas de ça. Évidemment que aujourd'hui plus que jamais, toutes les communautés juives du monde entier, et y compris les communautés françaises, ont le devoir de tout faire pour nous rejoindre ici en Israël. Mais quand je parle, ou quand les Havdil, le Rabbi parle de la grandeur du judaïsme français, il parle de cette grandeur dans le contexte de la délivrance finale, où comme on le verra, il explique que la fin du Tikkun se fera la fin du Tikkun, donc pour mériter la délivrance universelle, se fera et passera par les Juifs de France. Juifs de France ici et là-bas, ou ici, et bien sûr surtout ici. Mais pour être ici, on a d'abord dû passer par là-bas. Et c'est ce qu'on retrouve là-bas aussi, cette sensibilité absolument unique au monde qui a été donnée au judaïsme francophone. Et cette sensibilité à la délivrance, cette sensibilité au tikkun du monde que l'on trouve dans la mentalité française, puisque la mentalité française c'est la révolution, c'est le, et qui a été, on pourrait dire, introduite, cette mentalité à l'intérieur même du judaïsme et francophone. Et donc c'est plus ou moins le fil conducteur de tous mes cours de cette semaine, même si, comme par exemple le cours d'aujourd'hui, on ne verra aucun rapport avec ce que je viens de dire. Et je commence directement le cours en demandant au Maître du Monde de nous accompagner dans ce développement et ce dévoilement tout au long de la semaine. En tous les cas, on va revenir sur le Parchat Toldot. J'étais en France, on ne l'a pas traité, on aurait dû le faire jeudi dernier, mais comme j'étais souffrant, donc je n'ai pas pu faire cours cette semaine. Et donc, malgré tout, je pense qu'il est très très important de rattraper ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. Comme on le sait, donc la semaine dernière, on voit donc la naissance de Yaakov et de Esav. On sait tous que Yaakov et Esav symbolisent d'une certaine manière toute l'histoire humaine, et surtout, lui dire de parler un peu moins fort, et surtout symbolisent d'une certaine manière tous les problèmes de l'histoire humaine ces deux derniers millénaires, ce qu'on appelle le galout de Edom, le galout de Esav, le dernier exil, le quatrième exil, qui met en relation Israël et Esav, la confrontation entre Israël et Esav, la confrontation entre Israël et le monde occidental. Puisque selon notre tradition, Esav est le personnage biblique qui fait allusion entre autres, pas que, mais entre autres, au monde occidental, à la chrétienté et au monde occidental. Mais peut-être plus encore au monde occidental qu'à la chrétienté. Bien que le monde occidental est l'enfant direct de la chrétienté, mais quoi qu'il en soit, c'est donc de cette confrontation que l'on parle et dont on fait allusion dans la Torah. Alors on va essayer de revenir sur le personnage de Yaakov. Comme on le sait d'après notre tradition, c'est pas seulement une tradition, c'est un verset, il est dit « Titen emet li Yaakov ». La vérité a été donnée à Yaakov. La vérité, si on reste au premier niveau, je vais me mettre en colère, si on reste au premier niveau de ce qu'est la vérité, c'est donc de ne pas mentir, de ne pas se comporter comme un menteur. Et je vais vous donner une définition jusqu'où va la vérité. Je vais vous donner une définition à partir d'une histoire rapportée dans le Talmud. Une histoire qui, je pense, que j'ai déjà rapportée dans d'autres contextes. L'histoire de la chose suivante. Il y avait un maître dans le Talmud, je ne sais plus son nom, qui prétendait qu'il était vraiment le représentant, le pilier de la vérité dans sa génération. Ça veut dire, comme il le disait lui-même, on peut lui apporter tout l'or du monde, mais il ne changera pas une parole qu'il a dit. Pour rien au monde, pour tout l'or du monde, il ne changera pas ce qu'il a dit. Bon, la Providence a voulu lui montrer qu'il n'est pas encore tout à fait au niveau de la vérité vraie. Je ne sais pas maintenant si l'histoire elle est réelle ou elle est parabolique. À mon avis, elle est parabolique, vous allez le comprendre de vous-même, mais c'est l'enseignement qui compte. Et donc voilà que il se promenait, et puis il est arrivé à un endroit, il y avait un village, où il y avait à l'entrée marqué « Village de la vérité ». Tiens, il est étonné qu'il y ait un village de la vérité. Je croyais être le seul sur Terre à être le pilier de la vérité, quoi. Tout un village, des hommes, des femmes et des enfants, village de la vérité. Bon, il veut rentrer, tout de suite arrivent deux chomrim, deux gardiens, il dit « Hé, halte là ! Personne ne peut rentrer là !» Et à plus forte raison s'y installer avant de passer par un comité d'enquête et d'examen, voir si tu es un homme de vérité, etc. Et seulement après, on décidera si tu peux être l'un des nôtres. Je dis, pas de problème, moi je suis aussi un pilier de la vérité, vous pouvez me tester. Bon, il passe devant la Vaada, comme on dit, devant le comité. Il le teste et 10 sur 10, 100 sur 100, ah, ils sont vraiment heureux, ah vraiment... Dommage que tu n'es pas venu plus tôt, tu peux venir, toi et ta femme, pas de problème. Il lui donne un endroit où il peut s'installer, il est content. Bon, il est surtout content de voir que finalement, il y a d'autres hommes de vérité sur Terre. Et voilà, bon, il s'installe, les semaines et les mois passent, et ils se font des amis, des voisins. Un jour, sa femme était en train de se doucher. Et au moment où elle est en train de se doucher, donc vient une voisine, elle toque à la porte. Elle dit, la femme qui se douchait s'appelait Sarah, est-ce que Sarah est là? Lui, il était gêné, parce que c'est pas pudique de dire elle se douche pour un homme normal, c'est parce que c'est évocateur. Et donc, bien que c'est sa propre épouse, mais on parle d'un homme de vérité, qui est extrêmement sensible, extrêmement pudique. Et donc, il n'a pas osé dire elle se douche, il a dit elle est absente, par pudeur. Elle est absente, bon, vous lui direz quand elle reviendra que sa voisine Léa la cherche. Pas de problème, madame. Elle est repartie. Et puis, quelques minutes après, une catastrophe dans le village, un accident, un mort. C'était jamais arrivé une catastrophe. Les gens mouraient normalement. Mais pas une catastrophe, qui est le signe d'un problème. Tout de suite, le comité se réunit, on fait une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a menti? Ça ne peut être qu'un mensonge. Qui a menti? Lui qui était un homme de vérité, il a dit la vérité. Il a dit, j'ai pas menti. J'ai été pudique. Je n'ai pas osé dire que ma femme se douchait. J'ai dit qu'elle était absente. Va-t'en. Prends ta femme, tes valises. Va-t'en. Va-t'en. Tu n'es pas un homme de vérité. Et il a été chassé. Alors évidemment, rien que sur cette histoire, on pourrait consacrer la semaine. Parce que... d'un autre côté, on a des textes, des enseignements qui semblent confirmer, approuver son attitude. Puisqu'on nous dit que même pour le shalom, pour préserver la paix entre les hommes, on a le droit de ne pas dire la vérité. Il n'est pas dit. Typiquement, c'est typique l'erreur. Il n'est pas dit, il est permis de mentir. Il est permis de ne pas dire la vérité.
Toute la vérité.
Toute la vérité. Il est permis de dire les choses de manière à ce que ce n'est pas vraiment, mais ce n'est pas non plus un mensonge. Parce que quand il a dit, par exemple, elle est absente, ce n'est pas un mensonge. Elle n'est pas disponible. Il n'a pas dit, elle n'est pas à la maison, elle est partie faire des courses, qui aurait été un vrai mensonge. Elle est absente. Ça veut dire, elle est absente de la possibilité de te parler maintenant. Ça, c'est non seulement autorisé d'après la halakha, mais parfois c'est même recommandé. Si en disant la vérité vraie, tu amènerais une dispute entre les hommes. Le cas typique, c'est que quelqu'un vient, il vient de s'acheter une nouvelle chemise. Et alors, comment tu la trouves, ma chemise? Elle est belle? Tu la trouves horrible. Tu vas pas lui dire, parce que tu es un homme de vérité, écoute, t'es affreux avec. Non. Pourquoi? Parce que ça se dit pas. Tu vas dire, ah oui, c'est très bien, c'est un mensonge, je ne sais pas ce que tu penses. C'est pas un mensonge, pourquoi? Parce que si lui l'a acheté, c'est qu'il la trouve belle. Donc tu lui dis les choses selon sa vision à lui. Donc c'est pas une vérité vraie, mais c'est pas un mensonge non plus. Bekitsour, il nous est autorisé à nuancer la vérité dans certains cas, comme celui du shalom ou celui de la pudeur. Par exemple, il est explicitement permis... dans des cas de tzniout, par exemple, la femme est absente, elle est partie au mikvé, sa voisine la cherche, vous n'allez pas lui dire elle est partie au mikvé. Vous n'allez pas lui dire, vous n'avez pas le droit de lui dire qu'elle est partie au mikvé. Vous lui dites, elle est absente, elle n'est pas là. Très bien. Donc, en vérité, ce rave-là ne s'est pas trompé. Il n'a pas menti. Mais dans la mesure où ce village était le village de la vérité et uniquement de la vérité, pas de la vérité et du shalom, eux n'avaient comme concept que le concept de la vérité. Dans un endroit où il n'y a que la vérité pure et dure, dire elle est absente au lieu de dire elle s'est douchée, c'était déjà un mensonge, une forme de mensonge. D'accord? Ok. Simplement que nous, la loi nous demande d'être bien sûr des hommes de vérité, mais aussi des hommes de shalom. Et quand on doit peser la vérité et le shalom, on ne doit pas sacrifier le shalom sur l'autel de la vérité. Mais quoi qu'il en soit, on a donc du Talmud une définition de la vérité extrêmement, extrêmement élevée. Dans ce cas-là, se pose une question évidente. Comment on peut dire au sujet de Yaakov, Titen Emet le Yaakov, alors qu'on a vu la semaine dernière que Yaakov a un comportement, a des paroles qui sont à l'extrême opposé de la vérité. Et ne me dites pas, il a peut-être de bonnes raisons, puisque justement, pressentant la question possible, je vous ai devancé en rapportant ce texte du Talmud. lui aussi avait de très bonnes raisons de dire « ma femme est absente » au lieu de dire « ma femme se douche ». Mais quoi qu'il en soit, dans l'endroit de la vérité, ça s'appelle déjà un mensonge. Donc même si Jacob avait toutes les bonnes raisons au monde de passer devant son frère, de quel droit il dit quand son père l'interroge « qui es-tu mon fils ? Je suis Esav ton Béchor ». De quel droit quand son père lui dit « je veux te toucher pour être sûr que tu es bien Esav » et qu'il touche la peau de bête au lieu de toucher les poils, comment on appelle ça, le cuir chevelu, on dit.
La pilosité.
Comment ?
Pilosité.
La pilosité de Esav et que Yaakov le conforte et le laisse se tromper, etc. etc. Bikitsur, qu'est-ce qu'il fait là à la place de Esav ? Dans son comportement et dans ses paroles, ce n'est pas un comportement émette. Et encore une fois, vous auriez pu me dire, mais on a le droit de mentir pour déjouer le plan des méchants. Peut-être, je ne dis pas non. Mais dans ce cas-là, ne dis pas que cet homme-là est le pilier de la vérité. C'est le pilier de l'intelligence, le pilier de la guerre, dans le sens qu'il sait se battre contre ses ennemis, il sait donner le coup le premier, je ne sais pas, inventez ce que vous voulez. Mais ne parlons pas de vérité. La vérité, ce n'est pas ça. Un homme de vérité ne fait pas ça. Parce qu'un homme de vérité sait que si tu commences aujourd'hui à te trouver une seule bonne raison de ne pas dire ou faire la vérité, demain tu trouveras des tas d'autres raisons jusqu'au jour où tu trouveras que pour 100 000 euros, on peut aussi mentir et faire un faux témoignage. Parce que le phénomène de l'avalanche commence toujours avec une boule de neige. Donc c'est évident qu'il est absolument hors de question de justifier le comportement de Jacob en disant dans son cas précis, il avait des bonnes raisons. Parce que si lui a des bonnes raisons, un autre a des bonnes raisons et tout le monde a des bonnes raisons, et on en arrive au fameux principe de la raison d'État. Donc si tu commences une fois, t'es mort. Donc comment peut-on appeler Jacob l'homme de la vérité ? Il y a un problème ? Ou une question ? Si une question, c'est toi après.
Mais lié à l'histoire que vous avez décrite.
C'est pour faire avancer le cours ou sinon on laisse ça pour la fin ?
On peut laisser ça pour la fin.
Ok ? Alors laisse pour la fin. Alors mes amis, je vais vous donner la réponse, la vraie, la seule acceptable. Tout le reste est du traficage. La vraie réponse qui est empreinte bien sûr des secrets de la Torah. Et expliquée bien sûr dans le Zohar, dans les écrits du Hari HaKadosh. Et surtout explicitée dans les Mahamarim de Chassidut. Et on va voir qu'il y a une preuve dans la Torah elle-même, à cette thèse, à cette approche, à cette lecture de ce texte-là. Jacob n'a absolument pas menti. Il n'a absolument pas cherché à justifier son comportement sur des bonnes raisons qu'il pensait avoir. Non, il a dit la vérité. Quand il a dit « je suis Esav », il a dit la vérité. Parce que Jacob, à ce moment-là, est arrivé au niveau de la Darga, au niveau de Esav, tel que Yitzhak l'aurait voulu, tel qu'Esav avait été programmé dès le départ pour être, s'il avait fait les bons choix. Mais Esav, lui, a dévié. Esav, finalement, n'est pas devenu le Esav qu'il aurait dû être véritablement. Il n'était que le porteur du nom. Mais il n'avait pas la ma'out, il n'avait pas l'essence véritable d'Esav. Et qui c'est qui est devenu le vrai, le bon Esav ? C'est Yaakov. Je ne fais que introduire le coup, je n'ai encore rien expliqué. Ce qui veut dire que la Torah, comme toujours, nous apprend à réfléchir et comprendre les choses de l'intérieur et non de l'extérieur. Esav, ce n'est pas le poilu qui s'appelle Esav. Yaakov, ce n'est pas le... celui qui n'a pas de poil, Khalak. Ce n'est pas le imberbe qui étudie dans la yeshiva. Esav et Yaakov sont des concepts fondamentaux qu'on va essayer de comprendre et définir. Maintenant, Esav, celui qui est né physiquement avec le corps de Esav, devait devenir Esav, le bon, le vrai, celui qui était prévu dans le projet divin. Et Yaakov devait devenir ou rester le Yaakov prévu dans le projet divin. Et si chacun était devenu ce qu'il devait être, il y aurait eu la paix, le shalom, l'unité, la fraternité entre eux, et eux deux ensemble auraient réalisé le projet divin. Mais le problème est, et attention, le projet divin ne peut se réaliser qu'avec Yaakov et Esav ensemble. Yaakov ne peut en aucun cas seul réaliser le projet divin. C'est la raison pour laquelle la Torah dit qu'ils sont théomim, ils sont jumeaux. Pour bien nous faire comprendre que le projet divin doit passer autant par l'un que par l'autre. Il ne peut pas y avoir de monde construit sans la part réalisée par Esav autant que celle réalisée par Yaakov. Le problème, c'est qu'on a vite été confronté à un très très grave problème. C'est que Esav n'a pas voulu jouer son rôle. Esav est parti dans le décor. Et donc ce qu'il est devenu, ce n'est pas le Esav prévu dans le projet divin. Qui va être le Esav prévu dans le projet divin? Eh bien, c'est Yaakov. Yaakov va devoir endosser, assumer le fait d'être à la fois Yaakov et Esav. Et vous le savez tous, depuis ceux qui me suivent depuis des années, c'est la fameuse symbolique de l'habit de Esav qu'il met sur lui. Et quand il se présente devant son père lui dit à ce moment-là, c'est le marqueur à ce que j'explique, la preuve de ce que j'explique, il lui dit, « Akol kol Yaakov ve'ayada imyede Esav. » Tu ne m'as pas menti, Yaakov, quand tu as dit que tu es Esav. Parce qu'effectivement, dit le verset, tu as en toi la dimension de Esav, tu as les mains. Au niveau de l'action, tu es Esav. Au niveau du col, de ta voix, de ton intériorité, tu es Yaakov. Et donc tu es arrivé finalement à relever un pari extrêmement difficile d'être les deux à la fois. Et Yitzhak lui rajoute, parce que nos âmes étaient là-bas, puisqu'on est ses enfants, donc on sait ce que notre père lui a dit, et je vais vous dire ce qu'il lui a dit. Il a dit, tu vois, finalement c'est maman qui avait raison. Sache que le conflit qui m'opposait à ta mère, c'était justement sur ce point-là. Quel a été le conflit qui a opposé la mère au père, Rivka à Yitzhak? Quand Esav a commencé à mal tourner, Rivka est venue, lui a dit, mon chéri, il faut qu'on réagisse, parce que Hachem a besoin d'Esav et de Yaakov. Notre Esav, il parle dans le décor, qu'est-ce qu'on fait? Et si on misait sur Yaakov, qu'il arrivera peut-être à être les deux à la fois? Yitzhak lui a répondu, non mais tu plaisantes, Yaakov, mais regarde un petit peu. Il est fait pour étudier, il est fait pour prier, il est fait pour représenter le pilier spirituel et moral du monde. Il est fait pour représenter le miroir d'Hachem dans ce monde. On ne peut pas le lâcher dans l'arène de ce monde, il n'est pas pour ça. Je commence à empiéter sur la suite du cours. Il n'est pas pour ça, il va se faire déchirer dans ce monde. On a besoin d'un homme viril, on a besoin d'un guerrier pour affronter ce monde. Un guibor, un vrai. Quelqu'un qui est capable de combattre Nimrod et le tuer. Qui c'est qui a tué Nimrod? C'est Esav, comme on va le voir. Un homme fantastique, Esav. Le seul qui a eu le courage de partir contre Nimrod. C'était encore quand c'était un homme bien. Et donc il a compris sa mission, se battre contre le mal. Il dit, c'est d'un homme comme ça qu'on a besoin. Si tu prends Yaakov, tu le sors de la yeshiva, il va se faire déchirer. Rivka, qui parce qu'elle était femme, voit beaucoup mieux, profondément, et plus loin que son mari, dit, tu te trompes. Et Esav, il est parti, tu ne le reverras plus. Celui-là, en tous les cas, mis sur Yaakov. Le père ne veut pas, il dit, moi, je crois encore en Esav. Bon, il y a une mauvaise passe, c'est l'adolescence, il a commencé à tourner mal vers l'âge de 15 ans, dit Rachid, c'est la pleine adolescence, c'est la crise d'adolescence. Ça va passer, on le récupérera à 17, 18 ans, laisse-lui ses 3 ans, je le surveille. Et puis, tu ne le récupéreras pas. Et finalement, le père a misé que oui. Rivka, elle a dit, bon, allez, tu perds ton temps, moi j'investis sur Yaakov. Et elle a investi sur Yaakov pour en faire un Esav. Le jour où elle sent que Yaakov est prêt, elle lui dit, non, prends les habits de ton frère. C'est pas technique ce qu'elle lui dit de faire. C'est très profond. Elle lui dit, maintenant mon fils, après des années d'éducation, parce que moi je pouvais t'éduquer à devenir un Esav. Ton père ne pouvait pas, tu sais pourquoi? Parce que ton père, il est dans une famille de saints, il est dans une famille d'Avram et de Rivka. Il ne connaît rien au mal. Mais moi, j'avais comme père Bethuel, moi j'avais comme frère Lavan. Moi, je connais le mal. Et j'ai pu donc te transmettre tous les vices du mal pour que tu sois suffisamment fort pour le vaincre. Maintenant, prends les habits de ton frère, présente-toi devant ton père et dis-lui, voilà, maman a gagné, je suis Esav. Et donc quand il se présente devant son père et qu'il dit « Je suis Esav », il dit la vérité vraie. Pourquoi? Parce que la Torah ne parle pas le langage de l'extériorité. C'est pas ce qui est marqué sur la carte d'identité. C'est ce qui est marqué dans l'identité de l'âme.
Anochi,
comment? Anochi. Anochi, c'est l'essence. Bravo, Anochi Esav, bravo. Il n'a pas dit Ani Esav, Anochi, comme on le sait dans toute la Torah, Anochi, c'est l'essence. Ani, c'est qui je suis. Anochi, non, non. Ani, c'est quel est mon nom. Anochi, c'est qui je suis, c'est mon être. Donc il a dit Anochi Esav, il n'a pas dit Ani Esav, il n'a pas dit je m'appelle Esav, je suis Esav. Je suis arrivé au niveau de Esav, donc il n'a pas menti. Donc on voit que finalement, et je n'ai même pas encore sincèrement commencé le cours, ça c'est encore de l'introduction. Finalement, tout ce que nous voyons dans la parasha de la semaine dernière, c'est le travail, le combat de Yaakov pour devenir Esav, jusqu'au jour où lui, homme de vérité, ne ressent aucune honte à dire à son père « Je suis Esav ». Et son père lui répond « Oui, tu as raison, je constate que tes mains sont Esav. » Et donc le père acquiesce, le père signe « Effectivement, tu as réussi. » Alors maintenant, la question qu'il va falloir se poser, bien sûr, la deuxième partie du cours, c'est pourquoi Esav fait-il à ce point partie du projet, au point que sans lui, il n'y a pas de projet. Et pourquoi a-t-il fallu finalement que Yaakov devienne Esav, le bon Esav, sinon c'était la fin du monde. Que représente Esav, que représente Yaakov, et c'est ce qu'on va expliquer. Alors, je vais d'abord vous l'expliquer selon le langage technique de la Kabbalah et de la Chassidut, et après, bien sûr, bien avant la fin du cours, je vais décrypter, et dans un quart d'heure, dans 20 minutes à peu près, on passera aux questions. Dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, je vais faire exprès d'abord d'une manière technique, comme à l'école, comme en mathématiques ou en physique, ou les Havdil, ça veut dire d'abord on apprend le concept, et après on réfléchit sûr pour le décrypter. Nos maîtres disent que avant le Tikkun, quand Yaakov n'était encore que Yaakov, et Esav était encore Esav, mais le bon Esav, si j'ose dire, avant qu'il parte dans le décor, Yaakov et Esav représentent la chose suivante. Yaakov représente ce qu'on appelle le Olam HaTikkun, et Esav représente ce qu'on appelle le Olam HaTohu. Yaakov est le Tikkun, réparation. Mais attention, je parle de Yaakov avant qu'il n'atteigne lui-même sa perfection qui est d'être en même temps Yaakov et Esav. Je parle du Yaakov du départ. Il est Tikkun, réparation. Qui dit réparation ne dit pas encore perfection. Réparation et perfection, ce n'est pas la même chose. Réparation, c'est que tu répares quelque chose de cassé, mais quelque chose de réparé n'est pas forcément parfait. D'accord. Et mieux vaut ne s'être jamais cassé la jambe que de l'avoir eu cassée et réparée, quoi qu'il en soit. Donc, c'est le monde de la réparation, et ça s'appelle le monde du Tohu. C'est quoi Tohu? Ça fait allusion à ce fameux verset, au début de la création, le monde était Tohu et Bohu. Ça veut dire dans la confusion la plus totale, dans l'explosion la plus totale. D'ailleurs, en hébreu, jusqu'en hébreu moderne, quand quelqu'un il a un grand étonnement, il est toé. Ça vient du mot tohu. C'est-à-dire, époustouflé. Ça veut dire quelque chose de très fort que tu n'arrives pas à interpréter. Tu es en situation de toé. Donc, confusion. Donc, Esav incarne le monde du tohu, Yaakov incarne le monde du tikkun. Et c'est quoi, toujours au niveau technique, sans décryptage? Nos maîtres disent que dans le monde du Tikkun, il y a des kélim très forts et très grands, mais qui sont remplis d'une toute petite lumière, tandis que dans le monde du Tohu, les kélim sont petits et très faibles, mais ont à l'intérieur une immense lumière. Dans le langage en hébreu, Tikkun, c'est Or Gadol, Or. Tikkun, c'est Or Katan Bekli Gadol. Et Tohu, c'est Or Gadol Bekli Katan. Alors, toujours avant le décryptage, mais malgré tout, traduction. Qu'est-ce que le Keli, qu'est-ce que le Or? Le Keli fait allusion au réceptacle, ce qui contient et permet donc la présence d'eux. Puisque pour avoir du café à l'intérieur de ce verre, j'ai besoin d'un keli qui est le verre, sinon ouais, je ne peux pas avoir de café. Donc le keli, le réceptacle, assure la possibilité d'être en contact avec ce qui m'intéresse, qui est le contenu. Mais sans keli, pas de contact avec le contenu. Donc, chez Yaakov, le Keli était très fort, mais il y avait très peu de choses dedans. La lumière était très faible. Chez Esav, c'est le contraire. La lumière était immense, au point qu'on l'appelle Or Makif. Une lumière immense, qui est Makif, qui englobe. Mais le Kelim était très 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 faible. Et donc, chacun avait une qualité et un défaut. C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Yaakov avait la qualité que les Kelim étaient très forts. Mais il y avait très peu dedans. Esav avait la qualité qu'il avait de très très forte lumière. Mais le défaut, c'est que les Kelim étaient très très faibles. Donc finalement, si le maître du monde avait bien fait les choses, il aurait créé dès le départ un homme qui est le Keli très fort et plein de lumière. Mais évidemment, ça aurait été la fin du film. Donc pour qu'il y ait le suspense, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il sépare la perfection en deux, il donne à l'un la puissance du Keli, Yaakov, et il donne à l'autre la puissance de la lumière, Esav. Mais l'un sans l'autre ne peuvent en aucun cas réaliser le projet. À quoi ça ressemble le fait que l'un a besoin de l'autre? L'otan viot adam, levado, et c'est lo ezer kenegdo. C'est la raison pour laquelle Hachem n'a pas créé l'homme capable de s'autosuffire et de s'auto-reproduire. L'homme a besoin d'une femme, et la femme a besoin de lui, et ensemble, ils donnent la vie. Ce qui veut dire que chacun est né avec le manque de ce qu'il va trouver chez l'autre. C'est la raison pour laquelle la Torah commence avec la lettre bête, qui a pour valeur numérique 2, pour dire que dans ce monde, tout fonctionne grâce à la réunion des différences, des contraires qui se complètent. Donc, le phénomène Yaakov et Esav n'est pas un phénomène nouveau. C'est la confirmation de tout ce qui existe depuis le premier instant de la création. Hachem n'a pas voulu d'un monde où qui que ce soit puisse s'autosuffire. Chaque être humain a besoin de l'autre pour compléter sa compétence et vice-versa. Ce qui veut dire que Yaakov et Esav ont besoin l'un de l'autre, et comme on le verra encore, et c'est la raison pour laquelle Israël et les nations ont besoin les uns des autres, il n'y a pas de réel, Israël ne peut en aucun cas réaliser son projet sans les nations, et les nations ne peuvent en aucun cas réaliser le projet sans Israël, Yaakov et Esav. Donc ce n'est pas un jeu. C'est en vérité fondamental ce que Hachem a fait. C'est pas pour qu'il y ait du suspense, comme l'a dit l'idiot il y a 5 minutes, c'était moi. C'est pas ça. C'est parce que ça fait partie intégrante de l'essence même du projet. Hachem a voulu d'un monde où se réunissent les contraires. Donc automatiquement, il ne peut donner à personne toute la perfection. Voilà. Maintenant, on va commencer à décrypter, dans notre langage à nous, ce que signifie grande lumière, petit Keli. Petite lumière, grand Keli. Et c'est là qu'intervient la Chassidoute, qui, comme on le sait, comme vous le savez, est, d'une certaine manière, la clé qui ouvre la porte des secrets de la Torah. Sans Chassidoute, c'est absolument impossible de comprendre la Kabbalah. Qu'est-ce que dit la Chassidoute? Elle explique la chose suivante. La lumière et le Keli dans l'homme, puisqu'ici on parle de Yaakov et Esav, on parle d'homme, font allusion à deux niveaux dans l'homme. La lumière, c'est l'idéal. C'est la conscience, c'est les pensées, c'est les paroles aussi. Tout le monde théorique qui se trouve dans l'homme. Théorique, d'accord, mais moteur, parce que c'est justement notre idéal, notre conscience, nos pensées et nos paroles qui nous font agir. Et le Keli, c'est la réalisation, c'est l'action, c'est le comportement, c'est l'être, c'est ce que je suis concrètement sur le terrain. Alors maintenant, décrypté de cette manière, Yaakov, le Yaakov du départ, qui était-il? Un homme avec d'énormes kélim et très peu de lumière. C'est-à-dire un homme qui, au niveau de l'action, au niveau de son être, au niveau de son comportement, est un homme très solide, mais au niveau de ses idées, au niveau de ses aspirations, au niveau de son idéal, ça ne va pas très loin, ça se limite plus ou moins à lui et à son entourage. Ça veut dire que sa perfection qu'il a au niveau de ses kélim, elle ne va pas beaucoup plus loin que lui et son entourage. Parce qu'il n'a pas une vision makif, globale, universel, total. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ah, c'est un homme extrêmement bon. Il a des kélim solides. C'est-à-dire que dans son comportement, il est extrêmement moral. Il a ce qu'on appelle dans le langage du moussar, tikkun amidot. C'est un homme véritablement construit. Mais quand tu fais le point, oui, mais d'accord, mais t'es un homme bien, mais qu'est-ce que tu vas apporter au monde? Quel est ton projet? Eh bien, faire les mitzvot, être bien, quoi, être bien. Voilà, ça c'est Yaakov. Esav est extrêmement opposé. Esav est un penseur. Esav, il a des projets. Esav, il voit très très loin. Et Esav, il englobe tout. Esav, disent la Kabbalah et la Chassidut, c'est le Or Makif. C'est quoi le Or Makif? Esav, lui, ne s'intéresse pas uniquement à lui, à son petit projet personnel, familial, communautaire. Esav, il va très très loin. Ses aspirations, c'est des aspirations mondiales, universelles, messianiques. Mais le problème de Esav, et là on va s'arrêter quelques minutes de plus, c'est qu'au niveau de son comportement, les kélims sont très 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 faibles. Une grande tête dans un petit corps. De grandes aspirations dans un comportement qui est à la limite du « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Dans un langage encore plus moderne, et avec toutes les nuances à apporter, parce que c'est simplement une image que je vais vous donner, j'aurais appelé Esav le philosophe, et j'aurais appelé Yaakov le religieux. J'aurais appelé Esav l'humaniste, j'aurais appelé Yaakov le rabbin. Chacun a une qualité, chacun peut avoir un défaut. Traduit dans le langage de religieux et philosophe, on comprend exactement ce que je dis. Le philosophe, quand il parlera jamais les quatre coudées de mon petit monde à moi. Le philosophe, c'est... Mais dans son comportement, dans la vie de tous les jours, c'est loin, très loin, absolument loin d'être un homme construit. C'est même un homme horrible, parfois, dans son comportement de la vie de tous les jours. Ça n'ampute rien à ses idées, qui sont des idées très grandes. Mais ça ne descend pas dans le réel. Yaakov, on le voit dans la vie de tous les jours. Un homme bien, marié, il a des enfants, il est fidèle. Un homme qui se comporte exactement comme il doit se comporter. Un homme qui est un modèle pour sa famille, pour son entourage. Mais quand on essaye de creuser, de dire, oui, mais d'accord, c'est quoi le projet? Eh bien, le projet, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu te comportes bien, tu dis pas de médisance, tu voles pas, tu tues pas. Et bien, d'accord, et avec ça, tu vas changer le monde. Voilà. Voilà, Yaakov, ça. On va essayer ensemble de comprendre qu'est-ce qui fait que l'un et l'autre ont un manque. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement on trouve très très souvent, pour ne pas dire toujours, chez les hommes de grandes grandes idées, on trouve que dans leur comportement quotidien, ça ne va pas très loin. Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Je propose ma réponse et ça pourrait être une question après. Parce que l'homme qui a de très 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 grandes idées, il vit à un niveau tellement global, tellement grand, qu'il ne supporte pas de descendre dans le détail du quotidien. Il méprise le détail, il méprise le quotidien. Donc automatiquement, il ne donne pas d'importance, il ne donne pas de valeur au petit, parce que lui, il voit très grand. C'est comme un grand savant, vous allez trouver Einstein et vous allez lui poser une question technique sur un problème dans la confection de la bombe, ce coup il rentre pas à cet endroit-là, et il va péter les plombs. Je vous donne E égale LMC carré, vous allez m'embêter avec votre histoire de comment visser le... Il ne peut pas descendre à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, le comportement humain se construit au niveau des détails, pas au niveau des grandes choses. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est le détail qui compte. Yaakov, c'est le contraire, il est au niveau du détail, il perfectionne, il polit son comportement. Mais il est tellement investi dans le polissage de son comportement que quand après on lui demande « et oui alors ?» Ça me fait penser, j'ouvre une parenthèse, que tous les méchants prennent ce que je vais dire pour le retourner contre moi, mais c'est pour ça que je les appelle méchants, parce qu'ils n'ont pas l'honnêteté, l'intelligence de comprendre ce que je vais dire. Je vais fermer la parenthèse. Maintenant, je vais dire ce que je vais dire. C'est comme quand on étudie le Talmud. On peut être tellement investi dans la compréhension, dans les moindres détails de pourquoi il a dit, il n'a pas dit, qu'il aurait pu dire, qu'il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire, qu'il a finalement dit et qu'il finalement n'a pas dit. Que quand après tu poses la question, après 20 ans d'études du Talmud, oui mais d'accord, mais c'est pourquoi, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Quoi, tu crois que tout le Talmud n'a été donné que parce qu'il a dit, qu'il n'a pas dit, qu'il aurait dû dire ce qu'il n'a pas dit? Ça sert à quoi? Quelle est l'idée qui se cache derrière? En quoi ça va changer le monde? Mais très souvent, les talmudistes sont tellement préoccupés à « il a dit ce qu'il n'a pas dit » que quand on leur demande « mais c'est quoi le projet du Talmud ?» ils sont incapables de le dire. C'est même pas s'ils savent qu'il y a un projet. Tellement ils sont pris dans le détail du détail. En vérité, c'est quoi le sage parfait des maîtres comme il y en a eu dans toutes les générations? Celui qui est capable de descendre dans le moindre détail du Talmud, mais ne jamais perdre l'idée du projet. Le projet global, universel. Le projet de la délivrance. Il ne le perd pas. Il le voit dans chaque détail du Talmud. Mais des hommes comme ça, il y en a un toutes les 10 générations. C'est très rare. Parce que où tu es, ça fait penser à une autre blague. Pour mieux décrire ce que c'est, Esav. Un jour, c'est une histoire vraie, authentique, dont j'ai été le témoin. C'était à l'époque, dans les années 80, etc. Je veux dire, il y avait beaucoup comme ça, des anciens de 68, des années 70, comme ça, qui revenaient un petit peu au judaïsme. On en a connu beaucoup. Et puis, c'est un jour, l'un des. Peu importe, je ne sais même qui c'est, mais il rentre, je me rappelle, il rentre au Beit HaMidrash, connu, grand philosophe, grand juif, bien sûr. Et puis, il voit quelques rabbins en train d'étudier comme ça le Talmud. Et puis, il l'amène, mais vraiment, sérieusement, il dit écoutez, moi, je ne sais pas lire l'hébreu, en plus, c'est en araméen. Mais expliquez-moi de quoi ça parle, traduisez-moi de quoi ça parle, moi je vais vous expliquer ce que nos maîtres disent. Il avait suivi quelques cours de Lévinas, tout ça, donc il avait l'approche comme ça très philosophique du Talmud, je ne critique pas, qu'à Dieu ne plaise. Et donc il voyait que ça avait l'air d'être raison, il dit, traduisez-moi, moi je vais vous dire de quoi ça parle. Ça c'est Esav. Le bon. Ça veut dire tout de suite il va capter l'idée, mais dans le détail il ne sait pas lire. Voilà. Comprenez? Donc, je donne différents exemples pour vous compreniez. Allant un peu plus loin, Esav, c'est le juif du cœur, c'est le juif qui est prêt à mourir pour son peuple. Mais si on lui présente un petit crustacé, hein, bon, écoute, il ne faut pas exagérer, hein, un petit crustacé, c'est pas si mal que ça, après tout. Hein, c'est Esav. Et quand tu dis qu'il est prêt à mourir pour son peuple, c'est sincère, c'est vrai. Mais enfin, mais quel rapport avec des crevettes, franchement, je veux dire, les crevettes, c'est pas plus mauvais que... Très bien. Il ne peut pas supporter le détail. Ça, c'est ça. Mais quand après, il va voir quelqu'un qui fait très attention de ne pas manger de crevettes, mais qui va lui demander un jour, et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans le monde? Et que l'autre lui dit, ce qui se passe dans le monde, j'écoute jamais la radio, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Il dit, mais c'est quoi ça? Toute la journée, tu dis, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Bon, j'ai donné des exemples affreux, mais vous compreniez, j'arrête. Par décence à votre et à notre intelligence, je ne vais pas aller plus loin dans les exemples, vous avez tous compris de quoi on parle. Maintenant donc, ça c'est Jacob. Le problème est, lequel des deux est le plus en danger? Et Jacob ou Esav? Esav. Parce que Jacob, son comportement, est, lui, il est entouré de murailles. Lui, c'est Kélim, son de fer, son de béton, donc il n'est pas en danger. De toute façon, il ne s'intéresse pas au monde, Jacob. Donc il n'est pas en danger. Qui est celui qui est Ish Sadé? Qui est le guerrier? Qui c'est celui qui sort dehors? C'est Esav. Parce que pour sortir dehors, il faut avoir une grande motivation, il faut vouloir changer le monde. Et ça avait été créé pour changer le monde. Et ça l'a d'ailleurs compris. Dès qu'il a grandi, quel va être son premier combat? Contre qui il va le tuer? Nimrod, disent nos maîtres. Celui qui symbolisait la tour de Babel, symbolisait le mal absolu, dans le contexte de la génération, bien évidemment. Il a compris sa mission. Mais le problème, c'est que pour pouvoir être un Esav, il faut donc être un très très grand idéaliste. Parce que Yaakov, vous, il est Ishtam, Yoshev ou Alim. Lui, il n'a pas de problème. Il est dans sa maison d'études, il étudie. Amar Rava, Amar Abaye, Amar Rabbi Yochanan. Il n'a pas de problème. Quand on lui dit, mais comment tu peux passer tellement de temps à étudier alors qu'il y a des Nimrod dans le monde? Qu'est-ce que répondait Yaakov? Mais pour ça, Hachem a créé Esav. Et ça avait été effectivement censé représenter le combattant qui va ramener le monde à Hachem. Et Yaakov devait servir d'inspiration, de modèle spirituel à l'image du Shabbat et des six jours de la semaine. Pour un juif, un vrai, je vous tends un piège. Quelle est la partie de la semaine la plus importante, le Shabbat ou la semaine?
La semaine.
Pour la moi. Semaine, j'ai plus que pour un juif, un vrai. Il avait compris le piège, évidemment.
Non.
Mais, non, au contraire. Mais évidemment, pour un juif, un vrai, le plus grand moment de la semaine, c'est la semaine. Mais si tu enlèves le Shabbat, il n'y a plus de semaine non plus. Parce que ça ne va plus devenir la semaine d'un juif. Ça va devenir la semaine d'un animal. C'est-à-dire de quelqu'un qui ne vit. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, parce que c'est la réalité. Qui ne vit que pour satisfaire ses besoins. Mais le Shabbat te rappelle qu'il y a un modèle. Il y a un modèle qui doit inspirer ta semaine. Shabbat, la chouvre, revenir, ramener le monde à Hachem. Donc si tu perds ce modèle, tout ce que tu vas faire la semaine, c'est uniquement te préoccuper de toi. Donc ce n'est plus une semaine de juifs, c'est une semaine de créatures. Ce n'est plus une semaine réelle. Donc Yaakov devait être le Shabbat de Esav. Yaakov devait servir de modèle inspirateur pour toujours rappeler à Esav, attention, ton combat, tu ne le mènes pas pour toi. Ce n'est pas pour prendre toi le pouvoir, ce n'est pas pour t'enrichir, ce n'est pas pour être... un nouveau dictateur, c'est pour ramener le monde à Hachem. Le problème, c'est que comme Esav était tout le temps dans les champs, et puis dans les champs, quand il se rendait à son combat, il passait près d'endroits où il y avait de jolies bergères. Alors au début, il ne regardait pas. Puis, comme il était beau et chevaleresque, et... alors les paysans, ils ont commencé à le siffler. Bon, une fois, il n'a pas regardé, la deuxième fois, il a regardé, la troisième fois, il s'est arrêté, la quatrième fois, c'était fini. Mais ça ne peut pas arriver à Yaakov une chose pareille, pourquoi? Parce que Yaakov, il a les Shiva, il n'y a pas de problème.
Pourquoi il est marié de dessert?
Comment? Mais ça arrive à Esav. Esav s'est fait avoir comme ça. Nos maîtres disent, Esav est tombé à cause, en particulier, des femmes. Ce n'est pas les femmes qui l'ont fait tomber, qu'à Dieu ne plaise. Mais il est tombé là-dedans. Ça veut dire que même techniquement, il faut comprendre ce qui s'est passé. Étant dans le monde, il s'est fait bouffer par le monde. Parce qu'il était attirant, il était beau, il était fort, il était séduisant. Et tout le temps dans le monde. Ah, comment qu'il aurait pu s'en sortir si à chaque fois qu'il revenait d'un combat, il rentrait lui-même dans la maison d'études de Yaakov. Il disait à Yaakov, Yaakov, parle-moi, parle-moi, tu ne sais pas d'où je viens, j'ai besoin, remplis-moi de force. On a eu de vrais Esav dans notre histoire. Le plus célèbre de tous, c'était David, bien évidemment. Toute la journée à se battre et toute la nuit à louer le maître du monde. Dans notre génération, ici, ces dernières années, on en a eu beaucoup, mais on en a eu un célèbre, un très célèbre. On peut pas, malheureusement, on parle au passé de lui, le peu qu'on sait de lui, qui était un vrai Esav dans la Gdoucha. Moreno, on a entendu des histoires sur lui. Moreno, bien sûr. On a dit de lui que depuis Shimshon, il n'y a pas eu un Gibor Israël comme lui. Ce sont ces Mephagdim qui ont dit ça. Mais qu'est-ce que ces Mephagdim ont dit? Entre chaque mission, où on le trouvait Moreno, en train d'étudier ou d'enseigner. Et des fois, quand il revenait après des jours et des jours de mission, sans se laver, sans manger, sans rien, il arrivait avant l'heure de Mincha. Première chose qu'il faisait, Mincha, Arvi, peu importe. On en a eu des Esav de la Kedusha. Waouh, ce que c'est grand, Esav de la Kedusha, bien sûr. Mais le problème, c'est que Moreno ne s'est pas fait avoir, parce qu'il n'est pas mort, dans le sens qu'il est vraiment éternel. Mais Esav s'est fait avoir, c'est ce qu'il a dit à Anochi Olech Lamout, je vais mourir. J'y arriverai pas, c'est trop dur, on m'a confié une mission trop dure. Non, tu mens. C'est vrai que ta mission est énorme et très très difficile. Mais d'un autre côté, tu sais très bien que plus la mission est difficile, plus on reçoit des forces pour la réaliser. Et en plus, tu as Yaakov. Quel a été le problème de Esav? Dis-moi, moi je vais donner du crédit à ce petit Yaakov là. Il a méprisé Yaakov. Il l'a vu comme le rabbin minable qui est juste là pour retourner les pages d'un livre. Il n'a pas compris que Yaakov était là pour le sauver. Parce que oui, on a besoin d'hommes qui passent leur temps à étudier, prier toute la journée. Parce que même si ce n'est pas eux le but du projet, eux, ils sont la référence du projet. Et s'ils ne sont pas là, Esav ne pourra pas rester dans la Kedusha. Voilà ce que serait dû être. Mais comme c'était trop dur pour Esav de donner du crédit à Yaakov, il le voyait comme un méprisable parasite qui passe son temps à étudier. Automatiquement, il y a eu la cassure. C'est devenu une semaine sans Shabbat. Et Esav est parti dans le décor. On s'arrête là pour l'instant et on continuera ce cours demain. Première question, oui Nathan.
Bon, alors j'ai quelques questions, je marquais. Alors, Abraham Avinu, il ne voulait pas bénir Yitzhak.
Oui.
Parce qu'il a une prophétie, comme quoi il savait qu'Esav allait sortir d'air.
C'est le cours de la semaine dernière.
Yitzhak, exact, le cours d'hier. Alors, on peut dire qu'il a... sa prophétie, elle était fausse. Il a vu seulement d'un côté d'Esav, pas de l'autre côté. C'est la question. Est-ce que la Providence a fait ça en exprès? Qu'il verra seulement d'un côté. Parce que normalement, il doit bénir Esav et pas Yaakov.
Nahon, mais c'est-à-dire qu'Avraham, apparemment, a eu le même problème que. Non, Avraham, au contraire. Avraham a vu comme Rivka. Ça, c'est un sujet en soi. Qu'est-ce qui fait que finalement, Rivka a eu raison? D'où Rivka était sûr que le Esav, le vrai, enfin le vrai de naissance, n'était pas récupérable. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham a vu en prophétie des décennies à l'avance que Esav ne serait pas récupérable, Esav né?
Mais le maître du monde a béni Yitzhak lui-même, alors c'est pas possible qu'il voit mieux que le maître du monde.
J'ai expliqué la semaine dernière, parce que le maître du monde, lui, il est capable, lui, Abraham, une fois qu'il a béni, il s'en va, il meurt. Il n'est donc pas responsable de ce que va devenir sa bracha, mais Hachem ne meurt pas. Il peut bénir aujourd'hui et 20 ans après faire en sorte que sa bénédiction ne parte pas du mauvais côté. Ce que j'avais expliqué. C'est ça ce qu'a dit Abraham. Il a dit, moi je suis aujourd'hui là, demain je serai dans la tombe. Moi je ne pourrai plus être garant de ce que je donne. Un héritage, tu le donnes à un enfant qui va après faire le mal avec. Donc tant pis, tu n'es plus là maintenant pour vérifier, pour surveiller. Mais Hachem est toujours là. Donc Hachem dit, Avraham dit à Hachem, toi tu seras là le jour où Esav risquera de prendre et de récupérer la bénédiction. Je te fais confiance que tu interviendras à ce moment-là, parce que c'est toi qui bénis, donc c'est toi qui va surveiller. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Rivka et Avraham savaient, et Avraham encore plus que Rivka, parce que Rivka c'était au présent, Avraham c'était une prophétie. Les deux ont vu que le Esav de naissance ne s'en sortirait pas. Effectivement, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce que c'était prédestiné? Est-ce qu'il s'était perdu d'avance? Est-ce qu'il est responsable? Bon, c'est un peu du même type que la faute de Adam Harishon. Est-ce que la faute aurait pu être évitée? Est-ce que c'était préparé à l'avance? Il faut savoir que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires bibliques, les erreurs sont programmées à l'avance parce qu'elles font partie de l'histoire par laquelle il faut passer pour finalement arriver à tout réparer.
Il y a des commentaires qui disent qu'Adam a fait la première faute, Michel Arzor Betchouva.
D'accord, donc c'était programmé, absolument. Oui,
il y a des personnes du chat qui demandent, qui ne savent pas qui c'est Moreno. Est-ce que vous pouvez décrire?
Moreno a été l'un des soldats les plus glorieux de l'histoire du peuple juif, pas seulement de l'Israël moderne. Un homme donc qui était dans une unité, ce qu'on appelle les unités secrètes, les unités d'élite, mais aussi secrètes, parce qu'il y a plusieurs unités d'élite, mais secrètes, ça veut dire que personne ne sait dans quel genre de mission ils sont envoyés, ni de leur vivant, ni après leur mort, et ceci pendant des décennies. Ça reste une sorte de secret, parce que ce sont des missions extrêmement périlleuses et secrètes, pour bien sûr la sauvegarde et la survie de notre nation, de notre peuple. Et donc lui a été l'un des plus brillants de toute l'histoire juive depuis Abraham Avinu. Et des choses inimaginables qu'il a fait, qui ont fait que nous sommes encore là aujourd'hui, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. C'était un homme religieux, et donc qui était non seulement religieux, mais qui vraiment était prêt à donner sa vie autant pour la Torah que pour son peuple. Et après sa mort, il est mort malheureusement tué dans une embuscade, chose qui est absolument incompréhensible. Ce genre d'unité ne tombe jamais dans des embuscades. Mais bon, il est mort dans une embuscade dans une période très peu glorieuse de notre histoire où ceux qui dirigeaient l'armée n'étaient pas à la hauteur.
C'était
à la fin, le dernier jour de la dernière guerre du Liban. Malheureusement, l'armée était entre les mains de gens très très incompétents. Et c'est sans doute à cause de ça que la mission a été très mal préparée, et que à vision humaine, parce que bien sûr que tout vient d'en haut. Quoi qu'il en soit, donc il est mort très jeune, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a le droit de voir sa photo, et on ne le saura jamais d'ailleurs, mais par contre, on connaît très bien ses parents, puisque c'était un juif francophone. Ses parents ont fait leur alia de France, de Paris, et donc lui, si je ne me trompe pas, il est encore né en France, mais a grandi et a vécu ici, il parlait couramment le français, il a laissé une femme et 2 ou 3 enfants. Et donc c'était quelqu'un dont après on a raconté, j'ai entendu de la bouche de son père aussi des choses absolument incroyables, surtout sur son don de soi pour l'accomplissement de la Torah. On est toujours habitué à ce que nos soldats sont des gens pas forcément pratiquants, et c'est depuis longtemps une légende, puisque la plupart aujourd'hui des combattants d'Israël sont, oui, pratiquants. Mais quoi qu'il en soit, lui en était un, et vraiment, c'était pas un juif orthodoxe dans le sens qu'on le comprend à Bnei Brak ou à Mea Shearim, mais c'était un très 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 grand juif pratiquant, un homme qui étudiait la Torah, qui enseignait la Torah, et qui pratiquait les mitzvot, beaucoup plus haut que ça déjà. C'est, oui, dans la mouvance, mais il était déjà ce qu'on peut appeler Chardal dans le langage d'Israël, et donc Haridi Dati. Et donc on raconte des tas d'histoires sur lui, comment, je veux dire, après des jours de mission, quand il rentrait avec ses soldats épuisés, qui s'écroulaient dans le camp et qui dormaient pendant 48 heures après sans pouvoir se réveiller et manger, lui il posait ses affaires, il regardait où c'est qu'il y a un minyan, il allait faire en minyan la première prière qui venait, etc. Et s'il pouvait encore un petit peu étudier, il le faisait après. Et donc... le modèle parfait de ce qu'aurait dû être Essav, et qui est devenu le Essav parfait dans notre histoire, parce que depuis que Yaakov a récupéré Essav, on en a eu énormément des juifs de ce niveau-là. On a eu bien sûr David, qui est le symbole fondamental du Essav récupéré. N'oublions pas ce que dit le Ari HaKadosh, que David avait une étincelle de l'âme de Essav en lui. On comprend après ce cours pourquoi. Et il y en a eu, bien sûr, dans notre histoire. Yoav, le général d'armée de David, était un comme ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans toutes les générations, n'oublions pas que le père du Krav Maga, ce sport qui fait fureur dans le monde entier, qui a dépassé tous les arts martiaux, et qui est devenu la pratique numéro un de toutes les polices, du monde entier, de toutes les armées du monde entier. Même en Iran, ils apprennent le Krav Maga, pour vous dire. On a vu des reportages, même en Iran, ils font le Krav Maga. Ils ne disent pas que ça vient d'Israël, ça vient des Juifs. Ça, ils ne disent pas. Mais en tous les cas, le Krav Maga, qui aujourd'hui est la référence mondiale du sport, enfin, c'est pas un sport, du combat de corps à corps, a été aussi... inventé, si j'ose dire, par connaître l'histoire. C'est pour ça que le Krav Maga a une histoire extraordinaire, que malheureusement on n'enseigne pas ni dans la police française, ni dans les unités d'élite des commandos français, bien qu'ils font tous du Krav Maga. Et c'était un juif des ghettos. Un juif des ghettos, prisonnier bien sûr, un juif des ghettos. C'est lui qui a créé les unités d'élite en Israël après la guerre. Et un juif des ghettos, qui était jeune, qui avait une vingtaine d'années, quel ghetto ?
C'était un grec.
Un grec. Oui, mais dans quel ghetto c'était ?
Je ne sais pas laquelle.
En tous les cas, avec une bande de copains, ils ont décidé qu'ils refusaient de mourir. Comment c'est possible ? Et donc lui avait sans doute des aptitudes, peu importe, quelque chose d'assez extraordinaire qui lui est venu, peut-être comme une sorte de souffle divin, parce que je ne vois pas comment dans un ghetto, quand on n'a jamais pratiqué les arts martiaux, on va devenir le père du Krav Maga. Bekitsour, il est arrivé à inventer des techniques de défense et de combat absolument incroyables, encore dans le ghetto.
Tikkun HaGouf.
Voilà. Il a formé un groupe de jeunes affamés comme lui, et ils sont sortis du ghetto, ils sont arrivés à rejoindre le maquis, et après la guerre, il est arrivé en Israël, et il a commencé à monter donc une école très célèbre de Krav Maga. Tout de suite, il a été repris par l'armée pour former lui-même les unités d'élite. Et aujourd'hui, c'est une légende, le Krav Maga. Il n'y a pas un combattant au monde, y compris nos ennemis au Liban, le Hezbollah et les armées de la révolution en Iran, qui n'utilisent pas le Krav Maga. Voilà, donc c'est encore un exemple du Essav récupéré, puisque lui, C'est une attitude de Essav, le combat à la guerre. Mais lui, c'était pour sauver le peuple juif, d'abord pour se sauver lui-même du ghetto et pour sauver le peuple juif. Ce n'était pas pour écraser et faire du mal aux autres. C'était pour permettre au peuple juif de ne pas disparaître pendant la Shoah. Oui.
Je crois qu'on a pris les noms des Moreno, c'est comme la Providence a fait Moreno. Ça doit être notre prof. Moreno.
Moreno, ça veut dire notre professeur.
Moreno de Torah.
Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Le rôle de Yaakov dans tout ça, dans les psukim.
On n'a pas commencé encore. Le cours de demain va être de comprendre, évidemment, comment Yaakov, lui, est devenu Essav, par quoi il a dû passer, etc.
C'est dans les psukim qu'il est complètement passif, c'est Rivka qui agit.
Comment?
C'est Rivka qui agit sur Yaakov. Celle qui l'habille, celle qui le couche, celle qui lui prépare le repas, celle qui fait tout.
Tu as 100% raison, ça nous montre effectivement le rôle, l'impact de la mère et donc de l'éducation de la mère et sur le personnage de Yaakov. Le fait malgré tout que Yaakov a accepté, ça veut dire étant Ish Emet, c'était le début du cours pour répondre à ta question, étant Ish Emet, un homme de vérité, il n'aurait pas accepté ce que sa mère lui imposait de faire s'il n'avait pas senti que finalement il était, oui, prêt à pouvoir dire, comme tu l'as toi-même dit, devant son père, je suis l'essence de Essav. Ce qui veut dire qu'effectivement, il a été entraîné par sa mère. Mais comme n'importe quel boxeur ou n'importe quel sportif qui a besoin d'un entraîneur, qui le secoue, qui le crie dessus, qui des fois lui redonne courage quand lui est prêt à abandonner, et que, on le sait, la grande majorité des athlètes, s'ils n'avaient pas eu l'entraîneur qu'ils ont eu, on n'aurait jamais entendu parler d'eux. Bien que ce soit quand même eux qui sont sur le terrain et pas l'entraîneur. Donc l'entraîneur a quand même un rôle énorme. L'entraîneur, finalement, c'est quoi? C'est celui qui voit l'étincelle d'espoir qu'il y a dans la personne que des fois la personne elle-même ne voit plus. Et donc il sait la faire briller. Rivka a vu ce potentiel dans Yaakov. Elle a su que Yaakov pourrait jouer ce rôle. Et quand Yaakov a été persuadé que oui, il a le niveau, il a pu se présenter devant son père et dire « Anochi Essav, je ne te mens pas, papa !» Je suis arrivé à la madriga de Essav. Oui.
La carapace.
On retrouve le modèle type Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka. Puisque...
Plus fort, je vous entends bien.
Je disais, on retrouve le modèle type Abraham, Sarah, Rivka et Yitzhak.
Oui.
Puisque jusqu'à la ressemblance même, Yitzhak ressemblait à son père Abraham.
Oui.
On voit que Rivka, elle avait exactement les mêmes
qualités que Sarah.
Les mêmes qualités que Sarah, étant donné que Sarah avait refusé Ishmaël d'habiter dans la maison. Rivka, c'est avec Essav, et on voit que ce sont deux nations qui ont été créées à partir de ces modèles-là. Et de là, on voit que finalement.
C'est toujours la mère qui agit.
Voilà, la mère qui agit, mais on voit deux modèles types parce qu'ils avaient exactement les mêmes directions. Rivka sort de la maison de Bethuel. Sarah étant également la même chose, quoi, du même le même chourèche, la même racine.
La même famille. Sarah, la même famille.
Voilà, c'est ça.
Sarah, c'était aussi la famille de Bethuel.
Voilà, c'est ça.
Pas la fille de Bethuel ou la sœur, mais c'était aussi de cette famille-là.
Voilà, c'est ça. Alors, on retrouve, si vous voulez, le modèle type qui a été reporté sur
Israël. C'est toujours le même problème que dans un conflit entre le père et la mère de faire le choix entre deux enfants. À chaque fois, c'est le père qui s'est trompé, c'est la mère qui a eu raison. Abraham s'est trompé sur Ishmael, c'est Sarah qui a eu raison. Yitzhak s'est trompé sur Essav, c'est Rivka qui a eu raison. Mais malgré tout, il faut savoir, ça aussi c'est d'autres cours qu'on a déjà donnés, que l'action ou l'espoir des pères n'a pas été perdu, parce que c'est grâce à l'investissement des pères dans ses fils perdus que quoi qu'il en soit, ils ne sont pas totalement perdus. Nos maîtres disent que quoi qu'il en soit, Ishmael a fait Teshuva. Et de Essav, comme on le sait, sort après des lumières énormes. Et donc, il y a, oui, malgré tout, un investissement qui est récupéré, quoi qu'il en soit. À long terme, à court terme, c'est les mères qui avaient raison, mais à long terme, le travail des pères n'a pas été perdu, oui.
Il y a une contradiction ou un affinement qui doit être amené, parce que dans justement les toldot, les birourim qui sont faits entre Yitzhak et Ishmael, ça peut se comprendre dans la mesure où ils n'avaient pas vraiment le même père, c'est Abraham qui devient Abraham, il n'était pas circoncis, c'est pas la même mère, c'est deux individus séparés qui n'ont pas finalement les mêmes, on peut dire les mêmes origines, à part un petit aspect d'une effèche extérieure d'Abraham qui n'était même pas Abraham, mais dans le cas maintenant où on a le couple idéal qui est encensé par toute la tradition Rivka et Yitzhak, et que dans le même ventre de Rivka, dont on vient de dire qu'elle est la prophétesse la plus lucide, etc., elle donne naissance à ces deux forces-là. Comment ce birour qui doit être fait, qu'elle contribue à faire, il est complexe, parce que en fait, ça vient d'elle, ça vient d'Yitzhak qui est déjà épuré. Comment c'est possible que finalement Esav n'ait pas réussi, puisqu'il sort d'elle, il sort d'eux. Et donc il y a un vrai problème. D'un côté, elle est très compétente, elle voit loin, etc. D'un autre côté, c'est elle aussi, avec son mari, qui a porté ses deux enfants, et notamment Esav.
Je suis 100% d'accord, et ça ne fait que confirmer que, je vais dire de manière idiote, mais que la Torah est émette. En ce sens qu'elle nous montre la vérité vraie, que même des géants moraux et spirituels peuvent avoir des manques et commettre des erreurs. Il est clair que Esav ne s'est pas fait tout seul. Il est clair que pendant de nombreuses années, il était sous la responsabilité de ses parents. Et donc, il est absolument évident que certaines choses n'ont pas été suffisamment bien faites au niveau des parents, qui n'ont pas préparé suffisamment bien Esav à affronter le monde et à réaliser sa mission. Maintenant, quelle est la part de responsabilité des parents? Il est clair que c'est peut-être du 0-0-0, 1-1, mais quoi qu'il en soit, je partage tout à fait ce que vous dites. Et l'image du juste infaillible n'existe pas dans le judaïsme. C'est pour ça que c'est une religion vraie. Et donc, effectivement, c'est sans aucun doute une remarque juste. N'oublions pas ce qu'on va voir beaucoup plus tard, enfin dans les prochains cours, sur ce que nos maîtres disent, ce que nous disent sur Jacob, les erreurs qu'il a fait à l'encontre de Esav, de ne pas lui avoir donné Dina, etc. Et donc, oui, absolument. Et maintenant, effectivement, il faudrait peut-être faire une étude très très minutieuse, essayer de déceler dans le peu d'éléments qu'on a, qu'est-ce qui aurait pu être des erreurs commises. Encore une fois, avec 1 milliard de parenthèses et de guillemets, je ne sais pas qu'on appelle ça, quand je parle d'erreurs commises, mais quelles auraient pu être les erreurs commises par les parents à l'égard de Esav, ce qui n'enlève rien, bien sûr, à l'entière responsabilité de Esav, bien évidemment. Mais c'est une accumulation d'erreurs parentales, personnelles, etc., et qui n'enlève rien à la responsabilité de Esav, mais malgré tout qui lie les parents à Esav. Peut-être que c'est la raison pour laquelle Yitzhak s'est acharné à vouloir sauver Esav, en se sentant peut-être d'une certaine manière responsable de Esav, etc., etc. Oui.
Je voulais juste reprendre l'histoire que vous avez racontée sur le village de la vérité.
Oui.
Pourquoi dans cette parabole, le Mazal se mêle à cette histoire?
Quel mazal?
Le fait qu'il y ait eu un accident.
Non, c'était un signe providentiel pour dire qu'il y a un menteur parmi vous, sortez-le de là.
Mais c'est quand même une intervention divine malgré tout.
Oui,
ça.
Oui, c'est une parabole, c'est-à-dire pour montrer que ce village qui avait fait vœu de vérité, alors il a été jugé en fonction de son vœu, de son engagement. Et donc ils avaient une connexion avec Hachem qui passait par le canal de la vérité. Et dès que ce canal a été bouché, automatiquement, il y a eu des problèmes. Bon, c'est bon. Je ne pense pas que ce village a existé réellement, c'est une parabole. Mais c'est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Hachem te juge en fonction du lien que tu as établi avec lui. Ça veut dire que si tu établis avec lui un lien, une connexion qui passe par la bonté, par exemple, et si un jour tu ne témoignes pas de bonté vis-à-vis de quelqu'un qui en a besoin, tu seras automatiquement jugé. Plus que si tu as un manque dans d'autres qualités que tu n'as pas véritablement établi comme étant le canal entre toi et Hachem. C'est-à-dire que tu es surtout jugé en fonction du type de connexion que tu établis avec Hachem, qui correspond aussi beaucoup à la racine de ton âme, à ta nature, à ton tempérament, etc. Mais c'est évident que Hachem ne va pas te reprocher un manque dans un domaine qui n'est pas du tout tes compétences. Tu comprends? Mais par contre, on va plus te reprocher un manque dans le domaine qui est tes compétences. Donc eux se disaient les piliers de la vérité, dès qu'il y a eu un problème, ça leur a été reproché. Pourquoi avez-vous accepté dans votre village un homme qui n'est pas 100% vérité? Et donc automatiquement, pour leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur en gardant cet homme-là, il y a eu un problème. Oui.
Mais je crois que la Torah, elle ignore, à mon avis, je ne sais pas. Elle ignore Ishmael et Esav, parce qu'on dit sur Abraham, Bircha oto Bakol. Bakol Gimatria, ça fait Ben. Mais il avait déjà Ishmael avant Yitzhak. Alors, Ishmael, il est ignoré par la Torah.
Non, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, en ce qui concerne Esav, je pense que c'est une apologie, une louange toraïque adressée à Esav, ce que l'on fait. Puisqu'on montre que Esav, dans ce qu'il représente, fait partie non seulement interrompue du projet, mais il est peut-être le projet par définition, encore plus que Yaakov, Yaakov avant le tikkun de Yaakov. Et maintenant, en ce qui concerne le personnage de Esav, le personnage physique de Esav, qui lui est parti dans le décor, ça, c'est pas ne pas faire cas de Esav, puisqu'on sait très bien que la Torah s'intéresse à la ma'out, à l'essence, à l'essentiel. L'essentiel de Esav est mis en évidence par la Torah d'une manière sublime, puisque tant que Yaakov ne pouvait pas dire à son père « Je suis Esav », il n'aurait pas mérité les bénédictions, donc le projet divin s'arrêtait. Donc ça montre bien à quel point Esav est récupéré. Le personnage de Ishmael aussi, d'une certaine manière, puisqu'on voit combien Abraham prie, Louyirye Ishmael et Fanecha, combien Ishmael est dans le cœur d'Abraham, jusqu'au point que Hachem lui répond, oui, en ce qui concerne aussi Ishmael, Shamaticha, je t'ai entendu, etc. Et surtout, cette fin de paracha qui se termine sur la mort d'Ishmaël, où la Torah nous dit qu'il a fait teshuva, qu'il est mort comme un tzaddik. Et vous imaginez, j'ai pas envie de le citer, mais vous imaginez d'autres sources religieuses parler d'un de nos juifs comme un tzaddik, etc. Et la Torah termine en disant qu'il est mort comme un tzaddik, qu'il a fait teshuva, et l'expression utilisée au sujet de la mort d'Ishmael est la même que celle utilisée au sujet de Moshe Rabbeinu, au sujet d'Abraham Yaakov. Et Rashi s'étonne, il dit comment on n'a jamais trouvé une expression pareille que chez les plus grands tzadikim d'Israël. Et Rashi dit, de là tu vois que Ishmael avait le niveau d'Abraham, Israël, Yaakov, Moshe au moment de leur mort. Donc c'est-à-dire que la Torah met en évidence aussi. Maintenant, pourquoi la Torah, bien qu'elle met en évidence la grandeur de ces personnages, n'en parle pas sur le plan quantitatif? Parce que la Torah s'intéresse en priorité à l'histoire juive, comme microcosme du macro. Mais la Torah nous montre dès le départ que ces deux civilisations, Ishmael et Esav, ont une racine et donc une récupération et une construction dans le projet final, puisque la Torah étant éternelle, si on nous dit que le Ishmael biblique a fait Teshuvah, cela nous indique, comme on le sait, que le Ishmael historique fera lui aussi Teshuvah, lorsqu'il aura été, d'une certaine manière, nettoyé de tout ce qui s'est infiltré en lui et qui le pervertit. Parce que le problème est que le Ishmael qu'on a en face des yeux aujourd'hui n'est peut-être pas le Ishmael qui aurait dû être et qui sera. Seulement, il a été infiltré par des forces qui le détruisent de l'intérieur même. Et d'ailleurs, il suffit de voir tous les conflits qu'il y a en eux pour justifier ce que je dis. Si c'était tellement évident qu'il n'y a pas d'infiltration et de force négative à l'intérieur d'Ishmaël, comment vous comprenez que c'est la religion qui se massacre le plus les uns avec les autres?
Oui. Plusieurs questions, Rav. Est-ce que Isaac était-il admiratif d'Esav parce qu'il ne lui
faisait... Je n'ai pas entendu.
Est-ce que Isaac était-il admiratif d'Esav parce qu'il lui faisait penser aussi à son père Abraham dans son côté Gibor?
Peut-être. Et sans aller si loin, le Zohar dit que la raison pour laquelle Yitzhak était tellement attaché à Esav, c'est parce que Yitzhak incarnait à la perfection, entre parenthèses, la qualité de Yitzhak, qui est le don total de soi, ne pas avoir peur de la mort. Quelle était la qualité de Yitzhak? Le sacrifice d'Yitzhak, ça veut dire montrer que rien ne le retiendra, il n'a peur de rien. C'est quoi la définition d'un vrai guerrier? C'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui a le moins peur. Définition fondamentale, elle n'est pas de moi, elle est dans les livres de guerre. La grandeur d'un soldat, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui a le moins peur. Parce que même si physiquement parlant, il est peut-être moins fort qu'un autre, mais celui qui a le moins peur, c'est le plus fort. C'est pour ça que dans tous les conflits armés, c'est pas forcément les plus armés qui gagnent, c'est ceux qui ont le moins peur.
C'est lui qui n'a pas peur, il n'est pas normal.
Et donc, automatiquement, quand Yitzhak voit que dès l'âge de 15 ans ou 14 ans, Esav est parti se battre contre Nimrod. Il a vu qu'il incarnait la qualité que lui-même avait de n'avoir peur de rien. Et donc automatiquement, c'est pour ça qu'il avait une attache, on pourrait dire, nafshit, de nature. Il avait une attache de nature avec. Tandis que Yaakov, qui lui était au départ un homme très prudent, très craintif, Michael l'a dit, même quand il avait atteint le niveau de Esav, il dit encore à sa mère, écoute, j'ai peur, il va me maudire, etc. Tu n'entendras jamais Esav dire, j'ai peur de quoi? Si je dois le faire, je le fais. Et Hachem fera de moi ce qu'il voudra, c'est-à-dire quoi, j'ai peur. Dans la bouche d'un Yaakov, on entend le mot j'ai peur. Ça veut dire que Yaakov a du chemin à faire. C'est pas évident pour lui de devenir un Esav. C'est pour ça qu'automatiquement, Yitzhak s'est plus retrouvé dans Esav que dans Yaakov.
Oui, encore une question. Question de Marcy. Est-ce qu'on peut dire, pour revenir sur l'histoire du village de la vérité, est-ce qu'on peut dire que le shalom est donc à sauvegarder à tout prix sur le compte de la vérité?
Oui, parce qu'au niveau du judaïsme, nous ne faisons pas l'apologie. On dit l'apologie. Comme je reviens de Paris, je fais le malin, je fais semblant que je parle français. Donc, dans le judaïsme, on ne construit pas notre sagesse sur le seul et unique pilier de la vérité. D'ailleurs, on ne construit notre sagesse sur aucun pilier unique. Il y a toujours au moins deux, pour ne pas dire trois et plus. Donc, nous considérons que la vérité, s'il n'y a que la vérité, c'est pas ce qu'on doit suivre. Dites la vérité, rien que la vérité, dites je le jure, d'accord? Ce n'est pas juif. Non. D'abord, on ne jure pas, et deuxièmement, c'est pas la vérité que la vérité. Bon, dans un tribunal, oui, mais je veux dire, en tant que concept. Notre sagesse se fonde sur différents piliers qui sont la vérité, la paix, la justice, et donc la sagesse, c'est l'union de ces différents piliers. Des fois, il faut privilégier la vérité, des fois, il faut privilégier le shalom. Et bien sûr, ce n'est pas des gens comme vous et moi de décider quand quoi qu'est. C'est pour ça qu'on a la Torah, et là, à l'Acha, on a cette sagesse immense qui nous indique comment œuvrer à l'intérieur de toutes ces notions et ces contradictions.
Est-ce qu'il y a la communauté juive?
Donc ce village-là n'était pas un village juif d'une certaine manière. Il est rapporté à titre d'exemple de ce qu'est la vérité, mais ce n'est pas le modèle à suivre. Effectivement, chez nous aujourd'hui, si l'épouse se douche et que quelqu'un tape à la porte, nous n'avons pas le droit de dire elle se douche. On dit elle est occupée. Elle n'est pas là, peu importe. Mais on ne dit pas elle se douche jusqu'à aujourd'hui. Parce que notre village à nous n'est pas le village décrit dans le Talmud.
Rav, à quel moment en fait Esav il dévie? On sait que quand il revient de... Il a tué Nimrod, il a tranché la tête.
Oui.
Et on sait que aussi, Esav, il meurt aussi parce qu'il a, avec la tête tranchée. Est-ce qu'il y a une explication à cela?
Sans doute, parce qu'il est...
Comment on peut comprendre ça?
Il est parti tuer Nimrod pour faire plaisir à son grand-père, Abraham. Il dit, moi je vais venger Abraham. Abraham est encore vivant, mais le problème c'est que le temps qu'il a et qu'il revienne, il est mort, Abraham. Il est mort pendant cette période-là.
C'est ça qui l'accable.
Bien sûr, c'est ça qui l'accable. Il voulait apporter la tête de Nimrod à son père Abraham et il a eu le choc. Mais quoi qu'il en soit, il est parti véritablement avec une intention de détruire l'ennemi qui a tant fait, souffrir finalement le fondateur d'Israël. Puisqu'il l'a jeté dans la fournaise, il l'a persécuté, il l'a poursuivi, etc. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé, c'est que quand s'est passé l'incroyable, l'irréalisable, il est arrivé à vaincre Nimrod, à ce moment, qu'est-ce que disent nos maîtres? Nos maîtres suggèrent la réponse. Nimrod avait porté ses fameux habits qui avaient été portés par Adam Arishon, qui avaient été transmis après à son fils Shem, puis après Noah, et qui avaient été volés par Nimrod. Et celui qui portait ses habits, c'est une parabole, mais celui qui portait ses habits avait un pouvoir invincible. Et tout de suite, après, qu'est-ce qu'a fait Esav? Il a pris ses habits et il les a mis sur lui. Or, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, dit le Zohar? Il aurait dû les prendre et les rapporter, soit à Abraham, soit à son père Yitzhak. Dis-moi, t'es pas encore le chef de la génération, il y a encore ton grand-père, il y a encore ton père. Il les a pris pour lui. Quel est le décryptage de la parabole? Ça veut dire qu'il se dit, mais finalement, puisque Nimrod n'est plus là, maintenant, le chef, ça va être moi. Ce qui au départ était un acte, les Shem Shamayim, il l'a récupéré pour lui. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que sa victoire lui est montée à la tête. Voilà, et donc automatiquement, il est mort en perdant la tête. Sa victoire, effectivement, lui est montée à la tête. Et quand il a récupéré les habits pour lui, à ce moment-là, il a commencé à dévier. C'est-à-dire que c'est le cas typique de quelqu'un qui part avec de bonnes intentions, mais quand il voit que ça marche, il se prend trop au sérieux. Et donc, automatiquement, il dévie. Oui.
C'est l'exemple, il n'avait pas le cœur assez fort pour supporter cette victoire.
Bravo, c'est mamash. Alors, ça, c'est vraiment bravo. C'est exactement l'explication concrète d'une grande lumière dans des petits kélim. Il a pas supporté une tellement grande victoire, il a pété les plombs. C'est mamash l'explication la plus concrète de ce qu'on a dit au début. Une grande lumière, une victoire absolument incroyable qui fait que maintenant, on pourrait dire la porte est ouverte vers la conquête positive du monde, puisque le dictateur n'est plus là. Mais au lieu de remettre les habits au véritable créateur du projet, qui sont son grand-père et son père, il dit non, le projet maintenant c'est moi qui vais le représenter. Donc de grandes lumières dans des petits kélim, et il n'a pas eu la force, comme dit Jonathan, de le supporter. Et il a explosé, c'est mamash qui s'est passé.
Et sa tête se retrouve dans le tombeau des patriarches aujourd'hui.
Oui.
Est-ce voilà. que le machin n'est-il pas le tikkun des saves?
Oui, Baruch, ça c'est ce qu'on va expliquer d'ici la fin de la semaine. Le Mashiach, c'est le plus haut et le dernier niveau. Et le Mashiach ne sera pas un descendant spirituel de Yaakov, mais sera un descendant spirituel de Esav, réparé par Yaakov. C'est-à-dire, selon le langage de la Chassidoute, les lumières de Esav dans les Kélim de Yaakov. Ça c'est une expression très très forte du Rabbi. Ça a été un enseignement très 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 fort, pratiquement l'un des derniers enseignements que le Rabbi a pu transmettre avant d'arrêter d'enseigner. Il a dit que le tikkun du monde dépend de notre capacité à mettre la lumière de Esav dans les kélim de Yaakov. Ça veut dire, c'est tout ce qu'on a commencé à expliquer, c'est pour ça que j'ai choisi ce cours, parce qu'après on verra comment c'est lié justement à la France. Et donc effectivement, le Mashiach, c'est la lumière de Esav dans le kéli de Yaakov. Ça veut dire c'est cette puissance guerrière au service du bien, mais dans le Kéli de Yaakov, ça veut dire un homme qui est extrêmement méticuleux de la loi, méticuleux au niveau de son comportement sur le Tikkun HaMidot, qui est véritablement, entre parenthèses, soumis à Hachem, comme le juif le plus traditionnel et le plus orthodoxe est soumis à Hachem.
Oui. Question de 1973, quel profil avait la femme d'Esav, Yehudit?
Bon, ça on verra par la suite, c'est d'autres cours. Une dernière question et on s'arrête.
Les gens de la France.
On verra, on va traiter de ça, parce que c'est très important cette notion de... Il a eu deux types de femmes, deux cananéennes et la fille d'Ishmaël. C'est très important, on le verra pour comprendre justement le personnage de Esav, mais ça je ne peux pas y répondre maintenant pour ne pas esquinter la question.
Est-ce que les gens de la France, Tzafat, ils sont de la famille de David Amelech, Mishpachat Peretz?
Ça, c'est pas de vous et c'est pas de moi, c'est le Rabbi le dit clairement. Le Rabbi dit clairement que la Mahoud de la France est liée à Peretz, est liée au Faratza, qui est d'ailleurs la parasha de cette semaine, puisque quand ça a été dit au Faratza, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce cours, parce que je vais lier les deux parachiotes, c'est d'Afrika dans notre parasha. Quand Yaakov est sorti, il a vu l'échelle, Hachem a dit au Faratza. Et le Rabbi explique au Faratza, c'est Tsarfat. On verra pourquoi Bezrat Hachem, on va avoir de grands dévoilements, si Dieu veut, cette semaine. Amen, Vechen, Yeratzon.